tous.
Je vais prier pour Pierre. Seigneur notre Dieu, voici le moment de pouvoir entendre et écouter ta parole, Seigneur. Veuille apporter ton souffle, Seigneur, à notre frère Pierre, et que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce matin, Père. Merci encore pour ce privilège, Seigneur, d'avoir des serviteurs comme Pierre, et que tu puisses vraiment l'accompagner. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, Nasser. Je suis ravi de vous revoir. Certains sont partis là pour ces fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment dans les familles. Donc, on recommence une nouvelle année. Et j'ai le privilège de démarrer cette année d'enseignement et de message pour l'église de la rue Sonnera. Alors, je vais essayer de me connecter. C'est toujours le moment un peu difficile. Tu peux mettre l'Apple TV, Guy, normalement, si c'est bon. Ça a l'air d'être bon, donc on va y aller. Voilà. On va passer en mode paysage. Et zut, je ne vois plus rien là. Mais ouais, mais j'arrive pas à retrouver le bouton. Ah si, il est là. Voilà. C'est un bouton de vœux. Voilà, comme de coutume, on formule les vœux en début d'année. Alors, vous recevez certainement dans vos boîtes mail, par SMS, des tas de vœux qui sont plus ou moins, on va dire, superficiels, santé, bonheur, prospérité, tout ce que vous voulez. Moi, j'aimerais vous formuler plutôt ce matin des vœux de la part de l'apôtre Paul. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, et Philippiens, et Paul a vraiment à cœur les Philippiens. Et ce qu'il va leur dire dans son premier chapitre, c'est que il aimerait que leur amour augmente de plus en plus en connaissance de Jésus-Christ et en vrai discernement, afin que vous sachiez discerner ce qui est important. Voilà, si j'avais des vœux à formuler à l'Assemblée, c'est ce que j'aurais envie de formuler. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance de Jésus-Christ et en vrai discernement, en vraie sensibilité, nous disent certaines versions, afin que vous sachiez discerner ce qui est important. On est noyé d'informations, d'activités, et au milieu de tout ça, Paul exhorte les Philippiens à dire stop, essayez de discerner ce qui est important. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous formuler. Cette année 2020, c'est un peu une année particulière pour nous, puisqu'on va fêter nos 30 ans de présence dans cette église. Ça commence à faire un bail. Et si nous sommes là, c'est pas parce que l'église est parfaite, parce que c'est la meilleure église de Lyon. Déjà, elle est pas parfaite parce qu'on est rentré dedans. Et du jour où on est rentré dedans, elle est devenue imparfaite. Mais si nous sommes là, c'est parce que c'est une église qui essaye de tendre le plus possible, vers ce que Jésus a prévu en tant que fonctionnement d'église. Et j'aimerais parler aujourd'hui un petit peu de comment est-ce qu'une église doit fonctionner sur le mode néo-testamentaire et pourquoi est-ce que rue Sonnera, on fonctionne d'une certaine manière qui est peut-être inhabituelle pour vous. Vous venez de milieux très différents, de villes différentes, de pays différents, vous avez vu des églises, vous dites, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une succession de personnes qui viennent ici à la tribune? Nous, on a l'habitude de voir un homme en blanc, habillé, machin, qui nous dit toujours les mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui passent, etc. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Donc, on va essayer de répondre à cette question, et c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est la parole de Dieu. Et au-delà de ça, j'aimerais qu'on rentre ce trimestre dans un cycle d'enseignement dont aujourd'hui va être le premier jour. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'un homme. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose, ce portrait-là. Si je vous dis les aventures de Tom Sawyer, les aventures d'Huckleberry Finn, ça vous dit quelque chose? Non? C'est Mark Twain, exactement, quelqu'un l'a dit. Et Mark Twain a dit la chose suivante, il a fait pas mal de citations, il a dit notamment « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Vous connaissez cette citation célèbre. Mais Mark Twain a dit autre chose, Et il a dit que les deux jours les plus importants de notre vie, ah, il n'était pas chrétien, hein, mais je pense que c'est assez profond ce qu'il a dit. Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour d'abord où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi vous êtes né. Alors, la réponse à la première question, je pense que c'est OK pour tout le monde. Hein, tout le monde connaît sa date d'anniversaire, même approximative. J'y approximative parce que peut-être certains sont nés sous X ou sont nés dans des conditions où on ne connaît pas toujours sa date d'anniversaire. Par contre, la réponse à la deuxième question, c'est pas toujours évident de dire ben moi je suis né pour telle raison. On essaiera d'y répondre au cours de ce message. Si on regarde Jésus par exemple. À un moment donné, Jésus a été confronté à Pilate lors de son procès. Et Pilate lui a dit « Est-ce que tu es roi ?» Et voilà ce qu'a répondu Jésus. Il dit « Moi, si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage de la vérité. » Et Jésus savait parfaitement à quoi il servait. Il savait parfaitement le sens de sa mission sur cette terre. Il était parfaitement au clair. Et je pense que Jésus nous demande quelque part d'être au clair sur notre mission. Parce que notre mission, notamment dans une église locale, est une mission importante. Personne ne peut la prendre à notre place. Et donc, mon vœu cette année, ça serait que chacun puisse connaître et vivre pleinement ce deuxième jour dans sa vie d'église. Et pour cela, j'aimerais étudier avec vous un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens, qui va être donc, comme je vous l'ai dit, l'introduction d'un travail qu'on va vous proposer de faire durant ce premier trimestre sur ce thème de l'engagement, du sens de ma vie, des dons que je possède, que je peux mettre au service de l'Église et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'Église locale. Et si je devais donner un titre à notre réflexion ce matin, et Guy qui va nous faire le compte-rendu pourra marquer ça, voilà, ça serait « Fonctionnement et objectif de l'Église locale dans le plan de Dieu ». Et ça répondra peut-être à la question de certains. Hein, plus des trois quarts de l'Église sont des gens très récents qui viennent d'autres milieux. Et ça créera une espèce d'unité, j'espère en tout cas, pour pouvoir répondre à cette question. Donc on va lire dans le texte, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Et à partir du verset 7 et jusqu'au verset 16. Donc Éphésiens 4. Je vais lire dans la version second 21. C'est un texte un petit peu complexe. Il y a des enfants parmi nous, alors j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour vous. J'ai essayé de faire plein de petits schémas. Alors peut-être au travers des schémas, au travers des bulles, vous allez comprendre. J'ai fait pas mal d'illustrations. Donc voilà, je commence au verset 7. Voilà ce que dit Paul. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Et c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui a la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà donc ce texte. Alors, le plan que je vais suivre, je vais parler du contexte de cette lettre aux Éphésiens. C'est important de comprendre pourquoi, à ce moment-là, Paul va parler de ça. Ensuite, on va étudier ce texte, on va en faire l'exégèse. Vous verrez que l'analyse, c'est extrêmement dense, hein, c'est du pudding anglais. C'est vraiment très très dense, chaque mot compte. On va essayer de décrypter tout ça et on va l'interpréter ensemble. Vous verrez que c'est une véritable démonstration mathématique que Paul est en train de faire. Il y a des étapes, on va essayer de détailler tout ça. Et puis ensuite, j'en ferai 7 applications. L'application, donc, par rapport au contexte de l'Église lorsque ça a été écrit, et l'application pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Et enfin, on conclura par 5 questions pratiques que je vous laisserai, qu'on réutilisera encore dans le trimestre prochain. Tout ça, ça sera englobé sous la bulle de la citation de Mark Twain. Finalement, ce deuxième jour de ma vie, à quoi je peux servir? Eh bien, on va essayer d'éclairer ça un petit peu. Voilà ce que je vous propose donc pour aujourd'hui. Alors, d'abord, quelques mots de contexte de cette lettre. On est donc au Moyen-Orient, on est dans les années à peu près 60, et l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Éphésiens. C'est une lettre donc qui est écrite à l'église qui est à Éphèse, que vous voyez ici, là. Excusez-moi, c'est en anglais, mais je n'ai pas trouvé de carte plus jolie que ça. Et donc, Paul, il est en prison au moment où il écrit cette lettre. Alors, Éphèse, c'est une église importante, c'est une plaque tournante de l'Asie mineure. Vous savez qu'il y avait le temple de Diane, d'Artémis, qui est l'une des 7 merveilles du monde. C'était un lieu de passage. Il y avait énormément donc de monde à Éphèse. Et Paul avait exercé un long ministère d'enseignement quelques années auparavant. C'est là où il avait enseigné pendant 2 ans à l'école de Tyrannus pendant son 3e voyage missionnaire. Et donc, à ce moment-là, il passe à Éphèse, il enseigne énormément de monde, la parole de Dieu se répand dans la région, il y a plein d'églises qui sont fondées autour. Et Paul, par la suite, est en captivité à Rome. Je ne détaille pas, on lit tout ça dans le livre des Actes. Et lorsqu'il est en captivité à Rome, Épaphras lui amène de mauvaises nouvelles de la région. Il y a des fausses doctrines qui se répandent, et notamment le gnosticisme. Et là, Paul va réagir, il va rédiger la lettre aux Colossiens pour combattre ces fausses doctrines, pour contrer cette polémique de manière très pratique, et il va redire que c'est en Jésus-Christ seul qu'est le salut. Et puis, un petit peu plus tard, eh bien, il va rédiger cette lettre aux Éphésiens qui est en quelque sorte une lettre très doctrinale et théologique. C'est comme si l'apôtre Paul se disait, j'ai besoin maintenant, on est dans les années 60, le christianisme s'est répandu depuis une 30aine d'années, et il y a besoin de faire un point théologique, il y a besoin de reposer les fondements, de revenir sur les fondamentaux. Et Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, va revenir sur ces fondamentaux. On pense que c'est une lettre circulaire qui a fait le tour un petit peu des églises de la région. Il y avait donc Colosse, Éphèse, Laodicée, il y a tout un tas de Smyrne, etc. Enfin, CF, lettre de l'Apocalypse. Et pour moi, la lettre aux Éphésiens, c'est vraiment un monument de doctrine chrétienne. C'est une lettre de maturité de l'apôtre Paul, où il va mettre énormément de choses et il va repréciser. Dans les chapitres 1 à 3, là c'est plutôt un contexte local, il va parler de la richesse en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est comme ça que la lettre aux Éphésiens commence. Elle commence par une phrase gigantesque qui est interrompue par des points. Les traducteurs, Louis II, a mis des points, mais c'est une phrase extrêmement longue en grec. Donc pendant 3 chapitres, Paul va parler de la richesse en Christ, il va exhorter, il va enseigner la doctrine. Et puis, à partir du chapitre 4, il passe au côté pratique. Paul, il était maître là-dedans pour allier la doctrine et la pratique. Et à partir du chapitre 4, le maître mot, c'est marcher. Marcher en Christ. Et pour marcher en Christ, dans le chapitre 4, il faut être au sein d'une structure, d'une église locale qui fonctionne correctement. Et c'est ce que Paul, dans ce chapitre, va détailler, comment marcher en Christ dans une église qui fonctionne correctement. Voilà un petit peu le contexte de cette lettre aux Éphésiens, j'en dirai pas plus. Juste pour dire qu'à partir du verset 7, vous voyez ce qu'il nous le dit, et je vais vous donner à partir du verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Il commence donc cette lettre en parlant du don de Christ. C'est un petit peu compliqué comme traduction. Je trouve que la Français courant est beaucoup plus claire. Et il dit au chapitre 7, voilà ce que la Nouvelle Français courant traduit. « Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. » Donc, pour faire fonctionner une église, Jésus donne un don à chacun. Et il donne une place à chacun dans cette église pour que l'église fonctionne correctement. Donc Dieu distribue des dons, Jésus distribue des dons, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est là que le texte va nous préciser tout ça. Alors, je répète rapidement, contexte, j'ai oublié que j'avais fait une... Voilà. Donc Jésus distribue des dons. Alors, Paul va rentrer maintenant dans une démonstration pour nous montrer comment tout ça doit s'articuler, comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, Dieu donne, d'accord ? Il y a un don au verset 11, Dieu va accorder ce qu'on appelle des ministères, c'est-à-dire qu'il va donner à l'Église des personnes. Alors, ces personnes sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et des bergers et des enseignants. Ces dons sont repris aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 28, où Paul dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, des prophètes et des enseignants ». Donc ces ministères, je ne vais pas les détailler parce que ça nous prendrait trop de temps. Et je pense que on a déjà commencé à travailler ça. Colin a traité il n'y a pas longtemps acte 6, l'instauration des diacres, et ça mériterait d'autres études pour détailler ces différents ministères. Juste pour dire en deux mots, apôtres et prophètes, alors là les avis divergent, mais on pense que ce sont des ministères qui étaient liés à l'époque. Il faut se mettre à l'époque au Paul écrit, dans les années 60, il n'y avait pas de Nouveau Testament, la doctrine était transmise oralement par des lettres, le canon des Écritures n'était pas... encore réunis, donc les gens n'avaient pas la Bible et ils avaient besoin de gens pour poser le fondement. Apôtres et prophètes, ce sont des gens qui ont posé le fondement. Ensuite, il y a eu des évangélistes, c'est des gens qui annonçaient la bonne nouvelle, et des bergers et des enseignants. Je vais juste dire deux mots là-dessus parce que c'est intéressant. Louis II, en fait, a traduit à la fin du 19e siècle, il a traduit ça par pasteur et docteur. Pasteur et docteur. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de reprendre le sens. Donc, c'est les mots grecs, c'est poimen et didaskalos. Okay, donc, deux mots pour désigner deux types de ministères. En fait, la construction de la phrase nous montre que, c'est pour ça que je les ai mis en numéro 4 ici, c'est une personne qui réunit les deux choses. C'est pas, il a donné des bergers et il a donné des enseignants, deux types de personnes. Les deux ministères sont réunis. Pourquoi ? Parce que la construction grecque, la préposition qui lie les deux termes, fait que ce sont deux termes qui sont liés. C'est-à-dire un berger est un enseignant. D'accord ? C'est ma façon de voir les choses et la façon de pas mal de commentateurs. Peut-être vous n'êtes pas d'accord et je suis très ouvert à la contradiction. Mais le berger et l'enseignant, c'est la même personne. Alors, Louis II avait traduit pasteur et docteur. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on parlait de pasteur depuis la réforme de Luther, comme chef d'église. Donc, et on verra que le terme de berger et enseignant est réutilisé par l'apôtre Pierre en parlant des anciens de l'église. Donc, berger et enseignant, c'est les anciens de l'église, c'est les responsables. C'est les gens qui ont la responsabilité spirituelle, doctrinale, de conduire l'église. C'est ce qu'on voit dans les apôtres. Ce sont les gens qui sont en responsabilité. Et alors, Louis II a traduit docteur aussi parce que, et je trouve que c'est un terme qui est trompeur, docteur, parce que à l'époque, ça a été écrit fin du 19e siècle, souvenez-vous, c'était Jules Ferry, le début de l'école obligatoire, il y avait énormément d'illettrisme en France, et il y avait des gens qui avaient la connaissance. Alors on les appelait docteurs, ils étaient des érudits. Voilà. Donc, mais le mot ici, c'est le mot enseignant, c'est-à-dire c'est la personne qui est capable de simplifier des vérités pour la transmettre de manière appropriée. C'est ça en fait. Et un berger, le berger, c'est vraiment l'image de l'Ancien Testament, c'est celui qui veille sous le troupeau. Donc, berger, enseignant et ancien, c'est des termes qui sont un petit peu confondus. Voilà. Donc, tout ça, c'est donné par Dieu. Vous remarquez que ça commence par Dieu. C'est Dieu qui initie. C'est conforme à ce que on lit dans les évangiles, lorsque Jésus confronte Pierre en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus dit « Je bâtirai mon église. » C'est Jésus qui bâtit, c'est Jésus qui construit, c'est Jésus qui est à la tête de l'église, et c'est lui qui donne justement à l'église des gens avec des capacités variées. Là, il en est cité quatre, mais il y a également tous les dons spirituels qu'on étudiera dans le premier trimestre qui sont donnés à l'Église pour faire fonctionner l'Église. Hein, c'est des capacités que Dieu donne. De la même façon, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a fallu construire le tabernacle, Dieu a qualifié des hommes pour tisser des teintures, pour teindre, pour travailler le bronze, etc., pour travailler le bois, les tentures, etc. Il fallait des dons, et il a qualifié, alors, Betsaleel, Oholiab, etc. Vous lirez, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. Voilà, donc premièrement, Dieu donne, c'est le point de départ de tout ça. Ensuite, quelle est finalement la finalité? Pourquoi est-ce que Dieu donne tout ça? Alors, il a donné... D'accord. Et il a donné des dons qui sont très différents, qui sont très variés. Et c'est la richesse, en fait, de Dieu. Dieu est un Dieu riche, c'est un Dieu d'abondance. Il n'a pas donné juste quelques éléments, il en a donné beaucoup, parce que le ruisseau de Dieu, nous dit l'Ancien Testament, est plein de dons, plein d'eau. Alors, il a donné tout ça pour former les saints au service. Alors, c'est qui les saints ? Alors, les saints, déjà, c'est pas le gars qu'on voit sur les icônes, ou la femme qui se balade avec une icône qui est parfaite, qui est canonisée, qui a fait tellement d'œuvres extraordinaires qu'elle mérite vraiment d'être mise sur un piédestal, de faire une statue, de leur mettre une couronne sur la tête. Non, les saints, c'est vous et moi. Enfin, tous ceux qui appartiennent à Christ. Si vous appartenez à Jésus-Christ, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, si vous avez... Donc, acceptez le Seigneur, si le Seigneur a pardonné vos péchés, s'il vous a donné le Saint-Esprit, vous êtes un saint. Un saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Voilà, c'est ça un saint. C'est pas un homme parfait, c'est quelqu'un qui est mis à part. Donc, tous les gens qui sont mis à part pour Dieu, qui appartiennent à Jésus, j'espère que tout le monde ici appartient à Jésus, si vous n'appartenez pas à Jésus, c'est pas trop grave, parce que vous pouvez encore dire oui. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Donc, Dieu a donné tout ça pour former les saints, pour nous former au service, pour nous rendre aptes. Nous rendre aptes, c'est quoi? Déjà, prendre conscience de nos dons. Une fois qu'on a pris conscience de nos dons, il faut les travailler, ces dons, parce que les dons, ça s'entretient. Il faut progresser. Par exemple, Dieu m'a donné un don d'enseignement, c'est pas tombé tout cuit. Il a fallu que je travaille, il faut que je travaille encore, que je passe du temps, etc. Voilà. Donc, Dieu a donné des gens à l'Église pour former les saints au service. D'accord. Le but de tout ça, c'est édifier le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est nous tous. Hein, l'Église est un corps, elle est comparée à un corps, on y reviendra. Donc, comprenez bien, il y a un processus, d'accord, de former des saints au service. Nous tous, on a besoin d'être formés pour le service. C'est-à-dire que le saint, le chrétien, celui qui appartient à Christ, il n'est pas là pour juste... venir au cinéma, prendre sa place le dimanche matin, écouter un culte et repartir. Il est là pour servir, d'accord? Pour édifier le corps de Christ. Et voilà, donc il y a un processus de formation et il y a une action qui est attendue. C'est-à-dire de chacun, une action est attendue. Madame, ne partez pas, je suis désolé de vous avoir... ok, c'est un joke. Donc il y a une action qui est attendue. Et il y a un objectif, c'est d'édifier le corps de Christ. Le but, c'est qu'on soit édifié, qu'on soit encouragé, qu'on soit stimulé. Et là, il y a, dans les modèles d'Église, et je vous dis, ça fait 30 ans qu'on est à Sodra, mais on a, par le biais de différents déplacements, on a changé plusieurs fois d'Église. Moi-même, je suis passé dans 7 églises différentes depuis ma conversion, donc j'ai vu différents modèles. Le modèle le plus classique, c'est celui-là. C'est-à-dire que Dieu, il y a des gens qui sont à la tête de l'Église et hop, c'est eux qui font le boulot. C'est-à-dire que on voit 2, 3, 5, 6, 10 personnes peut-être qui se fatiguent, qui s'échinent, qui rament pour essayer d'édifier le corps de Christ. Souvent, ils font des burn-out. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de pasteurs, de gens de responsables qui font des burn-out. Pourquoi? Parce que voilà, les gens ne comprennent pas ce schéma-là. Le schéma nous dit que Dieu a donné ces gens-là pour non pas édifier le corps de Christ, c'est pas eux qui font le boulot. Il a donné ses ministères pour former les saints. C'est-à-dire que ces gens que Dieu a qualifiés doivent former l'ensemble des saints, des membres, des gens mis à part, c'est-à-dire vous devez être formés, d'accord, pour ensuite, dans un deuxième temps, édifier le corps de Christ. C'est-à-dire que l'édification du corps de Christ, il est de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'on est, membre du corps et en plus on édifie le corps. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Je vous donnerai une image tout à l'heure, on va parler de construction, ça va s'éclairer. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce modèle-là, qui est un modèle ultra-pyramidal, où il y a une personne à la tête de l'église, hein, moi je connais des églises où il y avait une personne qui faisait tout, le culte du début à la fin, on a assisté à ça. Ou bien une personne avec trois ou quatre anciens, et alors tout le monde s'épuise. Et le modèle biblique, c'est pas celui-là. Le modèle biblique, regardez, c'est que Dieu donne des ministères pour former tous les saints, et quand tous les saints sont formés et progressent, eh ben ces saints-là peuvent édifier le corps de Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais édifier le corps de Christ, c'est pas encore la finalité. C'est pourquoi est-ce que on va édifier le corps de Christ? Eh ben le but, c'est que chacun puisse arriver à la maturité. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'apôtre Paul, qui a écrit une lettre aux Éphésiens, qui est pour moi une lettre de maturité, où il y a vraiment une densité incroyable de concepts et de principes. Hein, et c'est pour ça qu'on prend le temps d'éclairer quelques versets. En général, quand on lit Éphésiens, si on lit ça dans un groupe de croissance, ça va tellement vite, on fait ça en un passage et on peut pas, quoi. C'est comme si on essayait de voir les maisons individuelles à 20 000 mètres d'altitude d'un avion, quoi. On peut pas regarder les maisons à 20 000 mètres. Donc on est obligé de se plonger là-dedans. Donc le but d'édifier le corps de Christ, c'est d'arriver à la maturité. C'est de progresser dans la maturité. Ok ? Donc ça, ce modèle-là, où deux ou trois personnes font le boulot, c'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est que vous tous, ici présents, qui appartenez au corps de Christ, qui est un saint, devez être formés pour édifier. C'est-à-dire que moi qui suis dans la catégorie berger et enseignant, hein, et je vous dis pas ça pour me mettre en avant, c'est Dieu m'a donné ce don, et voilà, quoi, je l'assume, et pour moi, il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. J'ai besoin de chacun de vous pour être édifié aussi. Parce que le corps, ce n'est pas quelques personnes qui édifient les autres. C'est, on a besoin d'être édifiés. Les anciens, ici, qui dirigent l'église et qui travaillent durement, ils ont besoin de vous pour être édifiés. Parce que sinon, ils vont s'épuiser. On a besoin d'être des rivières et pas des réservoirs. La rivière, elle reçoit et elle redonne. Mais on a besoin de recevoir. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le Christ. Donc le but, c'est la maturité. On va aller continuer la démonstration de Paul. Je vous ai dit, c'est un peu mathématique, mais je vais essayer d'éclairer. On va avancer. Alors, la maturité, c'est quoi? Alors, la maturité, c'est premièrement, c'est l'unité de la foi. C'est quoi l'unité de la foi? Ben, c'est qu'on ait une foi commune. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site de l'Église, mais on a dans l'Église une confession de foi et dans cette confession de foi, il y a ce qu'on croit, hein, et notamment on croit les cinq solas de la Réforme, hein, je ne veux pas les répéter, mais c'est l'unité de la foi, on doit croire la même chose. Une assemblée locale doit croire la même chose, hein, on ne peut pas croire des choses différentes, mais pour ça, il faut que ces choses soient en commun. Donc si vous n'avez pas lu la confession de foi de l'Église, allez sur le site de l'Église, lisez la confession de foi, et regardez où vous en êtes par rapport à cette confession de foi, parce que le but du corps, c'est qu'on soit mature dans l'unité de la foi. Il faut qu'on croie la même chose. D'accord ? Et il faut qu'on soit unis dans la connaissance de Jésus. Qu'on ait la même image de Jésus, les mêmes attentes. Qu'on ait, voilà. C'est ça, la maturité, c'est d'être dans l'unité. Et au début du chapitre 4 des Éphésiens, Paul nous dit que l'unité, elle a été construite par le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de construire l'unité. Aujourd'hui, on a des tas de mouvements œcuméniques en disant « ne regardons pas nos différences, regardons ce qui nous unit, etc. » On n'a pas besoin de construire l'unité. Jésus a construit l'unité par le Saint-Esprit. Paul nous dit « nous devons conserver cette unité ». Et pour conserver cette unité, il faut arriver à une unité de la foi et de la connaissance de Jésus. C'est pour ça que dans l'Église, on doit avoir un enseignement de base, de la doctrine de base, et que cet enseignement, tout le monde passe par cet enseignement-là. Donc Eric fait ça, les fondamentaux de la foi. En général, il y a deux ou trois personnes. Donc moi, je me réjouis, je me dis super. Ça veut dire que tout le monde connaît la doctrine et la foi, et donc on est à l'unité de la foi. Mais au cas où certains ne la connaîtraient pas, on va peut-être à l'avenir, on va peut-être mettre des enregistrements ou des choses pour que les gens puissent arriver à l'unité de la foi et la connaissance de Jésus. Donc maturation commune, ça c'est l'un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est d'arriver à l'état adulte, hein, l'état d'homme fait. Hein, dans certaines versions, il est dit à l'état d'homme fait. Le terme grec qui est utilisé, c'est un terme qui exprime la notion de fin, la finitude. C'est le même terme qui est utilisé par Jésus lorsqu'il expire sur la croix, il dit tout est accompli. C'est-à-dire tout est fini, c'est terminé, j'ai fait le travail, il n'y a plus rien à faire. Et bien, l'état d'homme fait, la maturité d'adulte, c'est ça. Et Paul revient là-dessus en disant, mais lorsqu'il s'adresse à ses auditeurs, il dit, mais vous devriez être à la nourriture solide et vous en êtes au lait. Voilà, et il les exhorte en disant, mais allez-y, vous devez progresser là-dedans pour arriver à cette maturité d'adulte. Et c'est ça l'objectif de l'Église. Hein. Je reprends la maturité commune, Dieu donne des ministères pour former tout le monde, pour qu'on s'exhorte mutuellement, pour arriver à l'unité de la foi, à la maturation commune, d'accord, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le critère de mesure, ce n'est pas des critères du monde, c'est la stature parfaite de Christ. C'est la ressemblance de Jésus. Et Jésus, on le voit dans les évangiles, comment il se comportait, comment il parlait aux gens, comment il réagissait, etc. Eh bien, on doit tendre vers qui est Jésus. Alors vous allez me dire, mais tendre vers Jésus, on est tellement loin, on ne va jamais y arriver, c'est même pas la peine d'essayer, vaut mieux abandonner tout de suite. Bah oui, le but c'est cette courbe-là. Ça s'appelle comment? Il y a des mathématiciens là dans la salle. Une asymptote, exactement, c'est une asymptote. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on va tendre vers, on va faire le maximum, on sait qu'on n'y arrivera pas. Mais on va tendre vers, on peut tendre vers. Parce que chaque pas qu'on va faire, vous voyez, on va commencer en bas à gauche, tout en bas, là, c'est négatif, puis progressivement, on va monter, on va se rapprocher. Alors au début, ça va très vite, c'est notre conversion, on change complètement, radicalement, etc. Puis après, vous voyez, la courbe s'infléchit vers la droite, et puis plus on avance, plus les progrès sont difficiles, parce qu'on gagne étape par étape, etc. On va tendre vers Jésus. D'accord? C'est ça le but. L'asymptote, c'est toujours être un peu plus que Jésus. C'est faire des progrès dans un domaine. J'identifie certains domaines dans ma vie, je dois faire des progrès, me rapprocher de Jésus. C'est ça finalement le résultat qui est attendu par tout ce processus. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. D'accord? Donc la notion d'asymptote. Ainsi, alors, on va continuer la démonstration. Parce que pourquoi arriver à la connaissance de Jésus? Pourquoi arriver à ce stade? Eh bien, parce que il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a des séductions. Ça serait si simple si on était complètement dans une bulle, dans un monastère, certains se sont isolés dans des monastères, ou si on était complètement isolé des influences extérieures. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des séductions. Il y a des séductions, il y a des manœuvres d'égarement, il y a des hommes rusés, il y a des gens qui vont nous détourner. Donc voilà, il faut résister aux séductions. Pour résister aux séductions, il faut connaître la vraie doctrine, l'unité de la foi, qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Vous savez, pendant un moment, on a formé des gens pour détecter les faussaires et la fausse monnaie. Et on s'est dit, eh ben, on va scanner toutes les fausses monnaies, et comme ça, on va former les gens sur tous les types de fausses monnaies qu'il y a. Seulement le problème, c'est qu'il y a toujours des faussaires encore plus intelligents qui à chaque fois trouvent des nouveaux systèmes qui se rapprochent de plus en plus de la vérité. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de témoigner à des témoins de Jéhovah ou de discuter avec des témoins de Jéhovah. Je me souviens, il y a 30 ans, peu après notre conversion, quand on parlait avec des témoins de Jéhovah, c'était, je dirais facile, je ne dirais pas ça, mais c'était plus facile parce que la doctrine, elle était grosse comme une ficelle. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ont adapté leur stratégie. C'est de plus en plus proche. Ils utilisent des termes évangéliques. Ils parlent de certaines choses. Ils ont progressé en 30 ans. Ça veut dire que la séduction, la fausse monnaie dont je vous parlais, elle est de plus en plus bien imitée. Et plutôt qu'essayer de détecter tous les types de fausses monnaies, parce qu'il faut toujours remettre le logiciel à jour, il vaut mieux connaître la vraie monnaie. Et donc, on forme maintenant les gens à reconnaître les vrais billets, à connaître les caractéristiques des vrais billets. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un faux billet qui arrive, eh bien, on compare ce qu'on connaît du vrai billet avec le faux billet qu'on a, et tout de suite, on voit la différence. Mais si on ne connaît pas le vrai billet, on a du mal à détecter la séduction. Comprenez? Donc, voilà, le but, c'est de résister aux séductions. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de séductions. Et Jésus l'a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, parce que dans les derniers temps, il y aura des séductions qui vont augmenter. Et le but de tout ce processus que Paul décrit, c'est de résister aux séductions. Vous allez dans le monde extérieur, on vous sert des ersatz d'évangile. Il y a des églises qui professent des tas de choses, l'évangile de la prospérité, vraiment, mais des fausses doctrines qui sont parfois subtiles. Et si vous ne connaissez pas les vraies doctrines, c'est très difficile de faire la différence. Personnellement, moi, je travaille beaucoup dans les milieux catholiques, hein, au travers des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je travaille dans les milieux évangéliques, charismatiques aussi, dans des accompagnements de responsables. Et tous les jours, je vois des fausses doctrines. Alors, je suis pas là pour tout dénoncer, hein, mais je m'aperçois à quel point la séduction gagne. J'ai eu ce privilège de fréquenter plein d'églises différentes, et je sais en qui j'ai cru. Et quand je vais dans ces milieux-là, je sais à quoi m'attendre et je sais que j'ai besoin encore plus de m'ancrer dans la parole pour ne pas me laisser entraîner. Hein, c'est ce qu'il dit là. De petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Vous voyez, Paul résume en quelques mots la réalité de cette séduction. Donc le but, c'est de résister aux séductions pour progresser personnellement. N'oubliez pas l'asymptote, on vise l'image de Christ. Donc le but, c'est de pouvoir progresser personnellement pour ensuite contribuer au progrès collectif. Donc l'Église, c'est un lieu où je progresse personnellement et je fais progresser les autres pour que collectivement nous progressions. C'est ça finalement. Hein. Et c'est pour ça qu'il termine Paul par ce passage. Il parle du corps, il revient, après avoir parlé de l'individu, il revient au corps. D'accord, le corps tout entier bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties. Donc l'activité de chacune des parties permet la croissance du corps qui s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà ce que Paul nous décrit. Alors, quels sont les signes de la maturité? Si vous voulez vous jauger aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu, vous voulez savoir comment... Quel est votre degré de maturité? Paul nous donne ici 4 indicateurs de maturité. Premier indicateur, la ressemblance à Christ. Vous lisez les évangiles, vous regardez comment Jésus réagit, et vous regardez comment vous réagissez, ou je regarde moi comment je réagis. D'accord? La ressemblance à Christ. Et c'est pour ça que Dieu peut être, pour beaucoup de gens, inaccessible, mais Jésus est homme, il a marché parmi vous. Nous, la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit l'évangéliste Jean dans son prologue, sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord ? Donc la ressemblance de Christ, c'est l'objectif du chrétien. Deuxièmement, la stabilité. Je vous l'ai parlé tout à l'heure des fausses doctrines. Au milieu des fausses doctrines, on a besoin d'être stable. Luther disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de se poser sur vous. Donc, on n'empêchera pas les fausses doctrines de nous influencer, mais est-ce qu'on va répondre oui à la fausse doctrine ou est-ce qu'on va revenir à la vraie doctrine? C'est ça la stabilité, c'est un signe de maturité, je suis stable et je ne reviens pas d'un week-end, je ne sais pas où, en disant « ouais, c'est super, je vais faire ça, je vais faire ça ». Non, la vraie doctrine, c'est celle qui est dans la parole. Troisièmement, signe de maturité, savoir dire la vérité avec amour. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si certains ont assisté, j'ai eu l'occasion de donner plusieurs ateliers lors du congrès des CAEF, des congrès annuels. Dire la vérité avec amour, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on est, soit on dit la vérité sans amour, ça c'est de la brutalité, on rentre dedans, d'accord ? Ou alors, on dit l'amour sans la vérité, c'est-à-dire qu'on n'ose pas trop, voilà, donc on va être mielleux, on va être super gentil, et finalement, on ne va rien dire du tout. Et il y a des milieux, il y a des églises, des assemblées où la vérité n'est pas dite. On essaye d'arrondir les angles parce que c'est une église. Moi, je connais des églises, hein, physiquement, je repense à plusieurs, qui ont eu des conflits, et donc du coup, tout le monde a décidé que comme on a eu des conflits précédemment, alors on ne va rien dire du tout pour ne pas froisser quelqu'un. Et du coup, on ne froisse personne, on ne dit pas la vérité, l'église n'avance pas dans la vérité. Donc la vérité avec amour, c'est extrêmement difficile. Et là, encore une fois, on a le modèle de Jésus. C'est le modèle que je prends dans ces ateliers des CAEF. Quatrième signe de maturité que nous donne Paul, c'est la capacité à coopérer. C'est-à-dire tout mon progrès, tous les dons que j'ai, le but c'est de contribuer à la croissance du corps, c'est coopérer, c'est amener sa petite part finalement à l'utilité commune. Et c'est ce que déjà beaucoup de gens font dans cette église. Ils amènent le peu qu'ils ont, finalement, comme un peu ce petit enfant lors de la multiplication des pains. Il n'avait rien du tout. Il avait quelques pains d'orge et puis deux poissons. Et ben, le peu qu'il avait, par rapport à la multitude, ça ne représentait rien. Il l'a amené à Jésus et c'est Jésus qui multiplie. Hein, c'est une belle image, finalement, du peu que je peux amener à l'église. Et tout ça, ça va se rassembler en une multitude de dons, ça va faire croître le corps. Voilà. Donc, quatre signes de maturité. Bah, mesurez-vous par rapport à ces quatre signes. Je me mesure, moi, en permanence par rapport à ça. Est-ce que je ressemble à Christ? Est-ce que je suis stable par rapport aux courants qui sont en vogue actuellement? Est-ce que je parle en vérité et avec amour? Et est-ce que je contribue? Est-ce que je coopère à la croissance du corps? Voilà, le temps passe. Je vais passer aux applications. On vient de faire l'exégèse et l'interprétation du texte. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'espère qu'avec ces quelques schémas, vous avez pu comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Sept applications pour nous, sept applications importantes. La première des applications, c'est que Christ est la tête. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Très souvent, on entend dire « Ah oui, ça, c'est l'église d'un tel, c'est l'église d'un tel, c'est l'église d'un tel. » Non, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'église, d'accord? Et le deuxième corollaire, c'est que Christ délègue localement, il délègue sa chefferie, son autorité, il la délègue à un certain nombre de personnes, d'accord? Un groupe qu'on appelle des anciens, des responsables, des bergers et enseignants. Hein, et ces gens-là, eh bien, ont l'autorité déléguée, doivent être soumis à Christ. C'est-à-dire que le leadership de l'Église doit être soumis à Christ. Dès que le leadership de l'Église quitte l'attachement à Christ, alors c'est vite dit comme ça, mais on en a vu, malheureusement, des gens qui se sont attribués un pouvoir qui n'était pas dû. Et ça ne marche plus. Donc, Christ délègue la responsabilité terrestre de sa présence à un groupe qui est doté de dons différents, qui travaillent collégialement. C'est pour ça que notre Église a un groupe de responsables qui travaillent en collégialité avec un assemblage de dons et des différences. D'accord ? Et c'est l'assemblage de tout ça qui permet le fonctionnement. Donc Christ, c'est à la fois le donateur. Je vais prendre une image de construction. C'est le maître d'œuvre. C'est le maître d'ouvrage. Et c'est la destination finale à la ressemblance de Christ. Christ est à l'origine, il est à la fin, c'est la destination finale, c'est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Nous, on est des ouvriers. Voilà, c'est ça que nous dit la Bible. Et on n'a pas d'autre place que celle-là. Troisième application pour nous, à la fois pour nous, mais pour les chrétiens de l'Église également, c'est que l'Église est un corps. Et Paul utilise dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens chapitre 4, hein, on travaillera tout ça dans les semaines à venir, dans 1 Pierre 4, dans Romains 12, il parle de l'Église comme d'un corps. Et je trouve que cette image est vraiment bien trouvée, parce qu'un corps, vous voyez, sans vouloir faire peur aux gens qui ne sont pas médecins, mais le corps, il y a plein d'organes différents, il y a des couleurs différentes, il y a des os, il y a des différentes parties. Et finalement, si le corps fonctionne, c'est qu'il y a différentes parties qui sont assemblées et qui travaillent dans une même direction. Lorsque mon corps veut quitter, par exemple, cette salle pour aller, eh bien, il y a plein de choses qui se rassemblent pour aller vers l'objectif. Et notre objectif en tant qu'Église et corps, c'est aller vers Jésus-Christ. Donc l'Église est un corps. D'accord ? Et chacun a sa place dans ce corps. Et lorsque chacun ne joue pas sa place, si par exemple il y a une jambe qui disait ben, « moi je veux rien faire », eh ben, la jambe c'est fini, quoi. Le corps ne peut plus fonctionner. Eh ben, la jambe c'est peut-être quelqu'un, toi ou toi, ici, là, qui se dit à un moment donné ben, « voilà, je fais rien ou je ne sais pas quoi faire », etc. Eh bien ça ampute finalement le fonctionnement du corps. Ok ? Quatrième application, et là je vais utiliser cette image que j'emprunte à Ruth Graham. Vous connaissez Ruth Graham, c'est la femme de Billy Graham, décédée en 2008. Et cette, Ruth, au cours d'un de ses périples, à un moment donné, elle roulait en voiture et il y avait des travaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque les travaux se prolongent, la vitesse est limitée à 80 au lieu de 130, alors... on regarde la montre, on est pressé, des travaux. Et puis, à un moment donné, ça y est, c'est la fin des travaux. Et donc, Ruth Graham a vu à un moment donné un panneau en disant « Fin des travaux, merci de votre compréhension ». Et à tel point qu'elle a fait graver sur sa pierre tombale hein, cette épitaphe que je reprends. Elle a fait graver « Fin de la zone de construction, merci de votre patience ». Voilà. « Fin de la zone de construction, merci de votre patience ». Bah, je trouve que ça s'applique bien à moi, hein, parce que je suis un chantier en construction. Je ne suis pas facile à supporter pour ma famille, et je leur dis « Merci de votre patience ». Mais je sais que Jésus me fait progresser et que j'ai besoin du corps de Christ, j'ai besoin de toute l'Église pour que je puisse avancer et en même temps faire avancer l'Église. On est un chantier en construction. Alors, pour construire un chantier, hein, je ne suis pas bâtisseur, mais je trouve que c'est une image intéressante. Voyez, la plupart des chantiers se construisent comme ça. Hein. Vous sortez là, juste dans la cour, vous regardez à gauche, il y a un chantier en construction, ça ressemble à ça. Voyez, vous avez la grue qui est au-dessus, et puis ben voilà, les grues construisent, et puis l'immeuble monte. Ça, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui font tout le boulot. D'accord ? Le problème, c'est que quand on arrive à la hauteur de la grue, on ne peut pas aller plus haut. Et bon, en général, chez nous, en France, on fait des petits immeubles, 10 étages. Bon, on a fait la tour oxygène, on a fait la tour, je ne sais plus comment elle s'appelle, la plus haute, là, maintenant. In-City, voilà, on a fait la tour In-City, donc on a fait un peu plus d'efforts. Mais il y a des pays où on construit des gratte-ciels. Alors, c'est intéressant, parce que là, 60, 80, 100 étages, Dubaï, la tour fait 1000 mètres. Du coup, ça, c'est un peu dur de faire comme ça. Ben, regardez comment ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur cette image, vous voyez qu'il y a une grue, mais la grue, en fait, elle fait partie de l'édifice. C'est-à-dire qu'elle est dans le truc, elle est dans l'édifice, puis au fur et à mesure que l'édifice monte, on monte la grue. Donc la grue monte avec l'édifice, on peut aller haut comme ça. Ben, je trouve que c'est ça l'image de l'Église. C'est que l'Église peut progresser si chacun, à un moment donné, construit cette grue. Donc vous avez soit la grue qui vient d'au-dessus, soit vous avez la grue qui monte avec l'édifice. Et en gros, si je reprends mes deux images et ce que disait l'apôtre Paul, ben c'est un peu ça. À gauche, vous avez la flèche rouge, vous avez les quelques personnes qui font le boulot dans l'église et les autres qui viennent au cinéma, qui prennent leur ticket et qui frottent le derrière sur le banc d'une église. Ou alors vous avez le modèle de droite, c'est-à-dire que Dieu utilise les ministères pour former l'ensemble de l'église de manière à ce que le corps du Christ puisse s'édifier. Voilà. Donc, à choisir. Cinquième application, les dons sont accordés pour l'édification commune. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas des dons juste pour que les personnes se vantent et se glorifient. Les dons sont pour tout le monde, pour l'édification commune. Ça, on reviendra sur ce point dans l'étude des dons. Sixièmement, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des séductions, des tromperies. Et c'est notre moteur. Pourquoi étudier les Écritures? Pourquoi progresser dans la connaissance de Christ? Parce que la séduction va s'accentuer. Jésus l'a dit, il y aura des séductions terribles pour séduire, s'il était possible, même les élus. C'est les paroles de Jésus que je prononce là. Pour séduire, même s'il était possible, les élus. C'est-à-dire que nous, on peut tomber dans le panneau demain. Donc c'est pour ça, ça devrait être notre moteur pour progresser ensemble, pour nous édifier, pour exercer nos dons, etc. Septième application, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de Christ que vient toute chose. Quand Paul écrit aux Colossiens, le maître mot de l'épître aux Colossiens pour contrer l'hérésie gnostique, hein, et entre parenthèses, de nos jours, aujourd'hui, la plus grosse séduction mondiale qui est en train d'arriver, c'est la séduction gnostique. Vous ne le voyez pas parce que ça s'est déguisé, d'accord ? Mais aujourd'hui, on est en plein dans le gnosticisme, avec le système d'Internet, etc., qui dématérialise le corps et l'esprit, hein. Enfin, on en reparlera si vous voulez, on fera peut-être une étude là-dessus, parce que c'est intéressant de voir la résurgence du gnosticisme, hérésie majeure des premiers siècles, aujourd'hui, et on ne la voit pas parce qu'elle se déguise autrement. La Bible nous le dit, hein, Satan se déguise en ange de lumière, donc il fait ça différemment. Donc, c'est de Christ que vient toute croissance, il est au début, il est le but, il est le donateur, il est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, et nous sommes ses ouvriers. Alors, je vais vous laisser pour conclure 5 questions pratiques sur lesquelles on reviendra. 5 questions pratiques pour conclure. La première des questions, je les ai toutes affichées, c'est pas grave. La première des questions, donc l'écart, quel est l'écart entre ce que vous pensez de l'Église et ce que dit l'apôtre Paul? Essayez de mesurer ce que vous avez, comment vous voyez l'Église jusqu'à présent et comment vous la voyez maintenant selon ce que dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez été victime d'une séduction? Est-ce que vous avez été séduit, peut-être dans votre parcours chrétien? Vous venez d'autres églises, d'autres pays, vous avez peut-être été séduit. D'accord? Troisièmement, quels sont les dons que j'ai reçus? Donc on fera une étude sur les dons spirituels et on aura aussi deux ateliers, donc une étude le vendredi et deux ateliers qu'on fera le dimanche sur la découverte des dons. Donc ça sera des ateliers sur inscription parce qu'il y a beaucoup de préparation derrière. Donc on ne fera pas ça de manière libre, il y aura une inscription et ça sera les deux séances ensemble. Quels sont les dons que j'ai reçus que je peux mettre au service? Quatrième question, qu'est-ce qui me manque le plus pour arriver à la maturité en Christ? C'est-à-dire en gros, quel est mon axe de croissance à développer en ce début d'année? Qu'est-ce que je dois travailler le plus pour contribuer à l'unité de l'Église locale? Et l'apôtre Paul, au début de l'Épître aux Éphésiens, il va citer sept dispositions de cœur, sept dispositions de cœur qu'il faut développer en fait pour progresser justement, pour marcher en Christ. L'humilité, l'amabilité, la patience, se supporter les uns les autres, l'amour, s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit et la paix. Relisez le début de l'Épître aux Éphésiens. Donc cette disposition de cœur, laquelle de ces dispositions dois-je développer au début, en début de cette année? Et enfin, la cinquième question que je vous laisse, c'est quelle est ma réponse au deuxième jour de Mark Twain? Ce fameux deuxième jour à laquelle je me dis, je suis né pour, l'objectif de ma vie c'est, le but, que ce qu'attend Jésus-Christ de moi dans le corps de Christ, c'est trois petits points et chacun met la réponse qu'il y a derrière. Si vous ne mettez pas cette réponse maintenant, vous serez obligé de la mettre au tribunal de Christ parce que Christ va vous demander des comptes en disant, tiens, je t'ai donné ça et ça et ça comme don, qu'est-ce que tu en as fait? Je vous renvoie à la parabole des talents. Il a donné un talent à l'un, cinq à l'autre, dix à l'autre et après il demande des comptes. Donc, c'est pas une menace, c'est ce que disent les Écritures. Donc la réponse au jour numéro 2 de Mark Twain, soit je la donne maintenant et je me mets au travail, soit je la donnerai d'une manière ou d'une autre au tribunal de Christ lorsque je passerai devant Christ. Alors le tribunal de Christ, c'est un tribunal pour les élus, d'accord? C'est les gens qui sont sauvés. Il n'est pas question de condamnation du péché, il est question juste d'évaluer les œuvres et le travail que Jésus nous aura demandé. Voilà, je vous laisse avec ces cinq questions et deux citations, une citation plutôt allongée. La citation de Luc, pour ceux qui lisent Méditation quotidienne, c'était le texte de lecture ce matin, donc je l'ai rajouté ce matin. Vous voyez, vous avez heureux ce serviteur, d'accord? Le maître part très loin, puis ensuite il revient, il demande des comptes. Ou alors vous avez le serviteur qui sait ce que le maître veut de lui, et là vous n'avez pas de chance, parce que vous êtes venu ce matin au culte et vous avez écouté ce message. Donc maintenant vous savez ce que le maître veut de vous, mais si vous n'avez rien préparé, si vous n'avez pas agi selon sa volonté, c'est pas moi qui le dis, c'est Luc qui le dit. Voilà. Donc je vous laisse avec ces réflexions. Je vous souhaite néanmoins une excellente année et je continue à prier pour que Dieu fasse abonder votre amour en connaissance et en vraie sensibilité afin que vous sachiez discerner ce qui est important. Merci et bon dimanche à chacun.